Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour la seconde émission avec Françoise Gernot. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Un titre très court, comme nous l'avons dit au début de la première émission. Pourquoi Socrate ? Et vous avez bien avancé dans la démonstration, mais on va repartir sur l'oracle de Delphes, sur Apollon, qui certifie que Socrate est le plus sage de tous les Grecs.
Oui, alors nous assistons, je dirais, en acte, grâce au dialogue de Platon, au procès intenté par l'Athènes démocratique à Socrate. Socrate, à l'époque, est tout de même assez âgé, il a autour de 70 ans. Hein. Donc, deux chefs d'accusation nouveaux, qui lui valent d'ailleurs un procès en bonne et due forme, sont prononcés contre lui. On l'accuse, un, de corrompre la jeunesse, et deuxièmement, on l'accuse d'introduire de nouveaux dieux dans la cité et de ne pas reconnaître les dieux officiels de la cité d'Athènes. D'ailleurs, le mot d'Athéna n'est jamais prononcé. Hein.
Donc, il est accusé d'impiété, en fait.
Alors voilà, il est accusé de construire un savoir tout à fait fallacieux, parce qu'on lui reproche d'être un savant, mais un savant qui pervertit la jeunesse, et on lui reproche impiété. Son impiété, on lui reproche d'être athée. Le mot athéisme, d'ailleurs, figure. Hein. Donc, contre ces deux accusations, Socrate se défend. Bon, en grec, le discours de défense d'un accusé s'appelle apologie. Hein, ça a changé un tout petit peu de sens. Voilà, d'où le titre de Platon, l'apologie de Socrate.
Non, mais c'est important de le signaler, parce que c'est vrai que nous, on a un sens différent d'apologie dans le langage courant.
Oui, bien sûr. Mais cette apologie est bien une apologie, je dirais, secrète, une apologie sous-jacente.
Ah oui. Alors, c'est impiété.
Eh bien, non. Nous commençons d'abord par, juste, pas si ça a tout de même à voir, par l'oracle de Delphes. Donc, la question que posent les Athéniens, avant même que le procès comme tel n'ait lieu, c'est sous-jacent au procès, et la question suivante, mais de quoi t'occupes-tu ? Quel est ton savoir ? De quoi parles-tu ? Hein ? Et j'avais déjà cité ces paroles. Socrate répond en disant « Si je peux avancer un certain savoir, il concernerait la sagesse humaine. » La sagesse humaine dont nous allons voir que Socrate la diminue ou la discrédite carrément par rapport au divin. Hein ? La sagesse humaine, Socrate l'affirme, et il n'y a rien de plus grec que cela, Socrate affirme que la sagesse humaine n'a pas, je dirais, le caractère transcendant et inatteignable de la sagesse des dieux.
Donc c'est très contradictoire en fait. On lui reproche l'impiété et en même temps, il reconnaît tout de même la sagesse des dieux.
Oui, alors nous allons le voir, parce que précisément, là où les Athéniens ne comprennent pas, en tout cas ce qu'il accuse, c'est qu'il s'agit pour Socrate de faire figurer une divinité parmi d'autres, qui est celle d'Apollon. Apollon, auteur des énigmes, hein, Apollon qui est tout à fait obscur, dont il faut décrypter les très étranges sentences qui sont prononcées en plus par une jeune fille, la Pythie. Qu'en est-il de cette relation privilégiée de Socrate à Apollon ? Alors, revenons un tout petit peu en arrière. Lorsqu'on accuse donc Socrate de ne pas avoir de véritable savoir, ou en tout cas d'avoir un savoir dont on n'apprécie pas, dont on n'arrive pas à situer non seulement la valeur, mais même la consistance, Socrate rappelle ceci. Alors, c'est le premier grand moment, il y a deux grands moments, rappelle ceci, c'est que un de ses amis, Kéréfon, a consulté par bravade, on le voit comme ça, par bravade l'oracle de Delphes pour lui faire confirmer que Socrate, est le plus sage de tous les Grecs. Alors, encore une fois, Sophia, je l'avais évoqué, Sophia, à l'époque, ça désigne tous ceux qui interrogent, je dirais, le ciel et la terre, qui interrogent le cosmos et qui s'interrogent sur les principes fondamentaux de la nature, de la physis. Bon, alors bien entendu, Socrate n'est pas du tout de ce registre-là. Donc, quand on reprend cette citation, enfin plutôt, quand Socrate essaie d'interpréter cette citation, à l'honneur presque, tout à fait énigmatique, quand il essaie de l'interpréter, voilà ce qu'il dit. Peut-être vais-je vous reprendre un petit peu ce que disait. Hein. Donc, Kéréfon, un jour qu'il s'était rendu à Delphes, osa consulter l'oracle pour lui demander, et n'allez pas, je le répète, m'interrompre par vos cris, citoyens, si en fait il pouvait exister quelqu'un de plus savant que moi. Or, la Pythie répondit qu'il n'y avait personne de plus savant. Alors, savant, Sophos. Hein. Et sur ce point, c'est son frère qui portera témoignage devant vous, puisque Kéréfon est mort. Considérez à présent pourquoi je vous parle de cela. C'est que je me propose de vous apprendre quelle est l'origine de la calomnie dont je fais l'objet. Puisque si Socrate est calomnié, j'évoquais le ressentiment, et Platon parle de jalousie. Hein. C'est dans la mesure justement où avoir été érigé en plus sage de toute la Grèce, ça fait scandale. Que peut bien vouloir dire la réponse du dieu et quel est son sens caché? Ça, c'est la question que Socrate se pose. Mmh. Hein. Donc Socrate, eh bien, il fait comme on doit bien. Quand on doit faire, quand on est en face des décrets du Dieu, eh bien, interpréter. Il faut interpréter l'énigme. Parce que pour Socrate, qu'il soit lui le plus sage de tous les Grecs, c'est totalement énigmatique. Et à ce moment-là, il va consulter ceux qui se prennent pour sages. Hein? Donc j'en avais parlé hier. Ouais. Les hommes politiques, les poètes et les artisans, et ils montrent comment, selon différentes modalités, ni les uns ni les autres ne sont sages au sens d'une sorte de sagesse transcendante, mais dont il est lui-même privé.
Ouais. Mais la question que je me pose, c'est que ces accusateurs, pourquoi ont-ils cette force justement d'accusation? Pourquoi on leur donne la parole? Pourquoi il y a ce procès?
C'est Platon qui met cela en scène, et Platon est un adversaire de la démocratie. Or, si vous voulez, la démocratie, c'est le règne de la populace, qui est prête aux passions et aux pires des passions. Donc la populace peut très bien se solidariser avec les accusateurs qui sont nommés. Il y en a trois, dont Mélétos, le principal. La démocratie athénienne peut très bien, le peuple, la populace peut très bien, on dirait aujourd'hui, céder aux propos vengeurs de ces hommes politiques qui sont eux-mêmes très, très pervertis, finalement. Voilà. C'est la démagogie.
Le populisme, peut-être aussi.
Oui, ce sont des populistes. Cherchez le mot. Très bien.
Des populistes.
Voilà.
Oui.
La démocratie, pour Platon, c'est le règne de la populace et c'est le règne souverain des populistes. Bon, et alors, on sent bien chez Platon, pardon, pas chez Socrate, mais chez Platon, on sent bien qu'il fait virer les accusations à l'encontre du peuple comme des accusations contre la démocratie. C'est un aristocrate et la République de Platon. Enfin, la République, le grand livre de Platon, est là pour le prouver.
Ça va jusqu'à la mort, faut dire.
Oui, alors, on va le voir, oui. Donc, ceci. Ceux qui assistent aux discussions s'imaginent en effet que je suis moi-même savant dans les matières où je mets mon interlocuteur à l'épreuve. Hein? Parce que l'interrogation de Socrate consiste à harceler. On le comparera plutôt à un temps, vous savez, temps qui vient de vous piquer les moments d'été. Socrate déconstruit, on le dirait en termes modernes, toutes les prétentions au savoir de ceux qui ont l'excellence enfin, à Athènes. Et il les harcèle. L'image, donc, c'est l'image d'un temps qui va piquer avec violence, d'où les réactions très négatives. Je lis un peu plus tard. « Parmi vous, humains, celui-là est le plus savant qui, comme l'a fait Socrate, a reconnu que réellement, il ne vaut rien en face du savoir. » Alors ça, c'est ce que Socrate traduit du mot, enfin de la sentence de, d'Apollon. Alors c'est Apollon qui parlerait, « Parmi vous, humains, celui-là est le plus savant, dans la mesure où il déclare qu'il ne vaut rien en face du savoir. Or, allant de ci de là, je poursuis ma recherche, et pour comprendre ce qu'a voulu dire le dieu, je cherche à découvrir si parmi les gens d'Athènes et parmi les étrangers, il s'en trouve un qui soit plus savant, et chaque fois qu'il me paraît que ce n'est pas le cas, je prête main forte au dieu en montrant que cet homme n'est pas savant. En l'absence de loisirs qui en résulte, il ne me reste plus de temps pour m'occuper sérieusement des affaires de la cité et des miennes. » Donc, la tâche, et c'est ça que veut dire philosophie, la tâche de Socrate en tant que philosophos, c'est le mot apparaît maintenant, en tant qu'il mène une vie philosophique, le mot intervient, vie philosophique, la tâche de Socrate, c'est de correspondre à la vocation que lui définit le dieu Apollon, qui est d'instruire négativement ses concitoyens et même les étrangers. Hein. Et à ce moment-là, il n'a plus le temps, puisque telle était la première question, de quoi t'occupes-toi ? De quoi t'occupes-tu, pardon ? La première question. Et il dit, je ne peux pas à ce moment-là, puisque mon propos, c'est de marquer la valeur de la sagesse humaine par différence avec celle des dieux. Mon propos est bien celui-là et je n'ai pas le temps. Hein. Je cite, « Il ne me reste pas de temps pour m'occuper sérieusement des affaires de la cité et des miennes. » Donc, il s'agit bien du retrait du politique. Donc, la pensée de Socrate, qui s'édifie à travers ses interrogations en négatif, c'est bien une pensée qui vise à un autre idéal que l'idéal de la cité. C'est un idéal, au contraire, un idéal de réflexion, d'interrogation portée sur le savoir des hommes. Quelle peut être la sagesse des hommes dans la mesure justement où elle est dépassée infiniment par la sagesse des dieux ? Voilà la réponse.
Oui, mais en même temps, on l'accuse d'impiété, c'est ça qui est assez...
Alors, la question de l'impiété, on va y venir.
Alors, je vous propose que, comme dans la première émission, on écoute, mais là, en instrumental, Eric Satie, qui a illustrer la mort de Socrate. Alors sur Radio Alliance Plus, Françoise, vous allez conclure, enfin longuement, la seconde émission pourquoi Socrate ? Et on voit ses accusations, on voit ses accusateurs et on sait le dénouement.
Oui, je rappelle la double accusation portée contre Socrate, donc corrompre la jeunesse. Alors, je mets entre parenthèses la longue discussion avec son adversaire Méletos sur ce que signifie corrompre la jeunesse. Il n'en est évidemment pas question, puisque au contraire, Socrate est un éducateur. Mais un éducateur, encore une fois, en négatif. Pas de positivité chez Socrate. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'on le qualifie toujours de personnage atopos, étrange. Il est étrange à la cité. Il est étrange à la culture dominante. Alors, la deuxième accusation, c'est l'accusation d'athéisme. Alors, quelle est l'accusation ? Eh bien, l'accusation qui est portée contre Socrate, c'est d'ignorer les dieux de la cité, mais les dieux de la cité, de ne pas les reconnaître, mais les dieux de la cité, précisément, ce sont les dieux qui coalisent, enfin, le politique, la vie politique d'Athènes comme telle.
Donc, oui, Athéna n'est jamais citée.
Alors,
vous
Athéna
avez dit.
N'est jamais citée. Par contre, celui qui est cité constamment, et on va y revenir, c'est Apollon.
Oui.
C'est-à-dire le dieu de la sagesse, hein, par excellence, mais le dieu, justement, de l'énigme. Hein. Donc, Apollon, c'est le dieu qui, à travers donc les mots de la Pythie, c'est le dieu qui interroge et qui sollicite une interprétation. Il fait appel à l'humain, il fait appel aux hommes qui peuvent d'ailleurs se tromper dans leur interprétation. Alors simplement, Socrate dit toujours que ce que je dis, c'est la vérité. Le mot de vérité est scandé continuellement dans le propos de Socrate. Je dis la vérité.
C'est cela qui ne plaît pas à ses accusateurs.
Oui, mais c'est une vérité, extraordinairement dérangeante, subversive. Voilà.
Il est subversif.
Il est éminemment subversif. Et ce qu'on lui reproche fondamentalement, c'est d'être subversif. Alors maintenant, la question est la suivante. C'est que nous savons que Socrate, et il le dit à un moment, Socrate reçoit son inspiration d'une voix divine, ce qu'on appelle depuis le démon de Socrate, un daimon. Alors voici ce que dit Socrate. Hein. Je vais lire un peu longuement peut-être. Une chose toutefois pourra sembler étrange. Alors que bien sûr, je prodigue à tout vent mes conseils en privé et que je me mêle des affaires de tout le monde, je n'ai pas l'audace de m'occuper des affaires publiques, de monter à la tribune de l'Assemblée du peuple dont vous êtes les membres pour donner des conseils à la cité. Cela tient à ce que, comme vous me l'avez maintes fois et en maints endroits entendu dire, se manifeste en moi quelque chose de divin. De démonique. Alors le mot
démonique, oui.
Daimon désigne le sens en suspens, tout de même des intermédiaires entre les hommes et les dieux. Les daimones, les démons, là, en tout cas celui de Socrate, se manifeste comme une voix. Alors, traditionnellement, les daimones, les démons, n'ont pas de nom propre. Hein. Ce sont des voix d'origine divine. Et on dit, à la fin, là, Socrate assure que ce sont les enfants des dieux. Alors, il ne peut pas être athée, puisque justement, il est à l'écoute de la voix divine.
Donc,
cette
son accusation est totalement infondée.
Et l'accusation tombe, bien sûr. Hein. Alors, il y a évidemment quelque chose d'assez drôle dans cette affaire. Alors, je continue. Hein. Cela tient, je répète, à ce que, comme vous me l'avez maintes fois et en maint endroit entendu dire, se manifeste en moi quelque chose de divin, de démonique, dont précisément fait état Mélénos dans l'action qu'il a intentée en se comportant comme un auteur de comédie. Parce que comme Aristophane, Mélétos, qui n'a rien compris, mais vraiment rien compris, caricature le personnage de Socrate. Voilà. Les débuts en remontent à mon enfance. C'est une voix qui, lorsqu'elle se fait entendre, me détourne toujours de ce que je vais faire, mais qui jamais ne me pousse à l'action. Alors, c'est très étrange.
Ben oui.
Hein, c'est très étrange. Donc, c'est une voix qui vient du plus profond du divin, hein, qui touche l'âme de Socrate. Et Socrate parlait bien d'une sagesse humaine, mais qui est là sous l'influence et la conduite d'une voix démonique. Mais cette voix démonique,
elle ne le pousse jamais à l'action.
Elle ne le pousse pas à l'action et elle est prohibitrice. En tout cas, c'est une voix qui retient. Qui retient le sujet, j'emploie un mot moderne, c'est une voix qui retiendrait le sujet lorsqu'il se prête à l'action au nom d'une pensée. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, là encore, de très très étrange. Oui. Alors, très étrange la voix divine, et très étrange une voix divine qui ne prescrit pas.
La voix divine, normalement, la voix divine donne des ordres.
Oui, elle prescrit. Alors là, elle est anti-prescriptive,
oui.
D'où encore une fois l'anomalie que présente Socrate par rapport à la relation des hommes au logos, à la parole divine. Alors je continue. Voilà ce qui s'oppose à ce que je me mêle des affaires de la cité. Voilà. Donc la raison pour laquelle Socrate assume et vit ce retrait du politique pour s'interroger sur ce qui peut-être la sagesse divine, encore une fois, en face ou soumise à la transcendance d'une sagesse... Socrate s'interroge sur la sagesse humaine pour montrer à quel point elle n'accède pas à la transcendance d'une sagesse pure et simple, qui serait la sagesse des dieux.
Oui, ça ne plaît pas à ses accusateurs.
Oui,
nous
avons avec Socrate, je dirais, un retrait de la cité, au sens large, et un repli sur, on dira une subjectivité en termes modernes. Je pense que ce n'est pas tout à fait juste. Mais il y a un repli sur une intériorité, mais une intériorité qui est ouverte au divin. Entre parenthèses, Saint Augustin lira bien ça dans la tradition grecque. Une intériorité qui n'a de sens qu'à être portée, portée par la parole divine, par la présence de la parole divine. Mais là, elle est interductrice. Et il ne s'agit pas de foi. Nous ne sommes pas dans le registre d'une religion de la foi. C'est tout à fait autre chose. C'est pour ça que le terme de subjectivité ne convient pas tout à fait, puisqu'il est lié tout de même à la pensée philosophique de Kant, par exemple.
Mais c'est assez évident pourquoi ces accusateurs ne le comprennent pas.
Oui. Voilà ce qui s'oppose, cette voix démonique, à ce que je me mêle des affaires de la cité. Et c'est là, pour ma part, je le crois, une opposition particulièrement heureuse. Bon, alors ne pas faire de politique, se mettre en retrait du politique, eh bien voilà, qui est très, très, très nécessaire. Alors là, on peut discuter, Alors, vous voyez bien la subversion, à quel point le propos de Socrate est éminemment subversif. Il est à Topos, il n'est pas dans la cité. Alors qu'il vit dans la cité. C'est ça qui est tout à fait étrange chez Socrate, c'est qu'il est à la fois... je ne crois pas qu'il s'agisse d'une contradiction...
Et ambiguë.
Il y a une ambivalence. Socrate, c'est l'homme de la cité, avec toute la civilité et la sociabilité, parce qu'il va dans les banquets, il est parfaitement reçu, il a autour de lui des cercles d'amis, pas simplement des calomniateurs.
Les disciples.
D'un côté, et de l'autre... Il se soustrait tout de même, je dirais, à la pensée dominante de la cité. Et il se soustrait aussi à l'amitié avec des personnages, en particulier les hommes politiques, pour lesquels il a le plus grand mépris.
Il joue pas le jeu, quoi.
Il joue pas le jeu. Non, il joue pas le jeu. Et à ce moment-là, intervient je ne sais qui, peut-être lui ou quelqu'un, qui lui dit « Mais tu es en train, en plaidant en contre-plaidant ainsi, parce qu'en fait, il démonte l'accusation, mais en contre-plaidant ainsi, que fais-tu ? Mais tu provoques, tu risques la mort.
Ouais.
D'où la question qui se pose ensuite, qu'en est-il de la mort ? Parce que Socrate, ayant parachevé son apologie, son discours de défense, entend, doit attendre la sentence, et la sentence, c'est la mort. Mais peut s'opposer. Quand il y a sentence de mort à Athènes, on peut celui qui est accusé, enfin l'accusé, le prévenu, l'accusé, peut très bien proposer, faire une contre-proposition. Alors là, c'est payer une amende formidable. Alors, il est pauvre, mais ça fait rien. Tous ses amis de l'aristocratie sont tout à fait prêts à payer des sommes folles. Et autre possibilité, eh bien, le prévenu se condamne lui-même à l'exil. Donc, il sauve sa vie et
là,
Socrate refuse. Socrate refuse. Alors pourquoi Socrate refuse en disant ceci, nous ne savons pas ce qu'est la mort. Mais entre-temps, provocation suprême, il demande au juge, eh bien, non pas de lui produire une amende ou de l'exiler, mais de l'entretenir aux frais de la ville, au prytané, c'est-à-dire dans le lieu, évidemment, des citoyens les plus éminents. Provocation ultime.
Donc, en fait, il veut mourir.
Il est accusé d'arrogance. Alors, veut-il mourir? Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça dont il s'agit. Hein. Socrate va montrer comment ceci. Hein. Voilà, je n'ai pas cru tout à l'heure devoir rien faire qui soit indigne d'un homme libre pour échapper au danger. Et je ne me répands pas non plus à cette heure de m'être défendu comme je l'ai fait. Donc, c'est une question d'honneur, c'est une question de dignité. Socrate refuse, sinon par cette provocation étrange, mais Socrate refuse de céder sur la condamnation à mort qui lui a été signifiée. Il y va de son honneur, il y va de sa dignité, il ne va pas s'abaisser à ça. Donc on voit tout de même le personnage, l'éminente force d'âme de ce personnage.
Mais c'est aussi le mépris de ces hommes politiques qui le condamnent.
Je ne sais pas si c'est du mépris. Je ne sais pas si c'est
l'arrogance. C'est plus
alors, on l'accuse d'arrogance, mais moi, je pense surtout que ça, lorsque Socrate propose d'être,
exécuté.
Non. Lorsqu'il propose d'être
l'inverse, oui.
Propose l'inverse.
D'être gracié, oui.
Non seulement d'être gracié, mais de vivre aux frais de la princesse. Bon, c'est, évidemment, chose est tout à fait ironique. Mais voilà ce qu'il dit. Je préfère mourir après une telle défense qui aurait construit véritablement sa libération que de vivre à pareil prix. Et plus loin, cela dit, j'ai bien envie de faire une prédiction vous concernant, vous dont les votes m'ont condamné. Je suis en effet à cette heure de la vie où les êtres humains sont les plus aptes à faire des prophéties au moment où ils vont mourir. Bon. Et plus loin, qu'en est-il de la mort ? Qu'en est-il de la mort ? Nous ne savons pas. Alors là encore, c'est intéressant, puisque Socrate déclare qu'il ne sait pas ce qu'il en est de l'au-delà, en quelque sorte. Hein. Alors, le signal divin a donc, telle est l'interprétation dernière de Socrate, le signal divin lui interdit de plaider en sa faveur. Et voici ce que déclare Socrate, sont les dernières lignes. « Mais voici déjà l'heure de partir, moi pour mourir et vous pour vivre, de mon sort ou du vôtre, lequel est le meilleur ? La réponse reste incertaine pour tout le monde, sauf pour la divinité. »
Donc nous arrivons à la fin de ces deux émissions. Pourquoi Socrate ? Merci Françoise de nous avoir éclairé sur ce personnage au moins énigmatique, sage et énigmatique qu'est Socrate. Merci à vous Françoise.